Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Tout pour réussir. On reçoit un invité, un chanteur, un compositeur, Jali. Bienvenue Jali dans l'émission.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te recevoir. On va directement aller dans le vif du sujet avant de parler musique et de la sortie de ton nouvel album. Est-ce que tu peux dire qui tu es et qu'est-ce que tu as fait avant de rentrer dans le milieu de la musique?
Alors, qui suis-je? Donc, je m'appelle Jali, c'est un nom de scène. C'est le nom d'une colline du Rwanda, c'est le pays où je suis né. Et j'ai aujourd'hui 34 ans, j'ai fait des études de communication à l'IEX. Et ensuite, j'ai choisi la voie de la musique. Et là, maintenant, ça va faire depuis plus de 12 ans, je crois, que ma carrière a démarré. Voilà.
Félicitations. Y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans la musique. En plus, tu as été aussi coach de Voice. Comment ça se fait que toi, tu as percé et pas quelqu'un d'autre? Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais comment, à partir de rien, on peut passer en radio? Comment ça s'est passé, toi, ton arrivée en radio? Quel est le processus qui t'a permis d'arriver en radio?
Alors moi, j'ai certainement sur mon parcours eu de la chance, parce que je pense qu'il y a toujours un petit facteur chance qu'on peut pas vraiment maîtriser. Après, je crois que si on doit parler de facteur, il y a aussi le petit facteur X qui fait que, tu vois, cette petite chose qui fait que t'es un peu différent. Alors, ça va dépendre aussi du moment où tu te situes. Ça veut dire, des fois, ça veut juste dire être au bon moment, au bon endroit, quoi. Et pour ma part, après, ça s'est fait beaucoup par la scène, parce que j'ai fait énormément de premières parties, j'ai fait une tournée avec Bernard Lavillier, etc. J'ai fait beaucoup de concerts, et c'est comme ça que les gens ont petit à petit appris qui j'étais.
Et pour aller encore plus loin, du coup, comment tu te retrouves à faire la première partie de Bernard Lavillier?
Eh ben, ça, c'est venu du coup un peu plus tard. C'est quand j'ai finalement signé en maison de disques chez Universal. On était dans le même label. Et un jour, mon directeur artistique, il m'a demandé, voilà, les gens avec qui j'aimerais bien peut-être essayer de partir en tournée. Et à l'époque, dans leur label, il y avait Tiken Jafakoli, avec qui j'ai aussi fait plusieurs concerts. Et puis Bernard Lavillier, qui m'a pris sur toute une tournée de Zénith. Et donc, ça a été des connexions de maison de disques. Mais c'est sûr que ça n'a pas commencé par ça.
C'est ça, donc c'est la maison de disques qui t'a mis là-dessus. Ouais. Donc je vais creuser encore plus loin. Comment tu as réussi à ce que Universal et la maison de disques signent avec toi? Comment ça s'est passé?
C'est là où je te dis qu'il y a peut-être un peu de chance qui a intervenu, parce que moi, j'ai justement pas galéré beaucoup avant.
C'est rare,
ça. Ouais, c'est là où je pense avoir eu peut-être de la chance, c'est que moi, j'ai écrit mes toutes premières chansons et quelques mois plus tard, les maisons de disques étaient en train de frapper à la porte de l'équipe avec qui je travaillais. Et ça s'est fait vraiment par des rencontres. J'étais très proche de Gaël Faye à l'époque, qui m'invitait souvent à faire des premières parties de ses concerts à Paris. Et un jour, j'étais en train de faire la première partie d'un concert de Gaël Faye. Donc c'était, je pense, en 2009 ou en 2008, quelque chose comme ça. Et il y avait un directeur artistique de maison de disques dans la salle. Et puis de là est parti des rencontres et de fil en aiguille, voilà.
C'est ça, donc finalement, tu étais avec quelqu'un, une amie, tu as été, et en bougeant, tu t'es fait repérer.
Ouais, c'est ça. En fait, j'ai un peu fait un truc inattendu, parce que c'est vrai que d'habitude, pour un peu expliquer, c'est vrai que il m'invitait souvent à faire des concerts là-bas, et cette fois-là, il m'avait dit, ouais, cette fois-ci, désolé, je peux pas te payer le trajet pour venir et tout, parce que il m'envoyait toujours un billet de Thalys et tout ça. Et cette fois-là, ils avaient pas pu, et donc il m'a dit, mais si t'es chaud quand même de venir par tes propres moyens, la première partie, elle est pour toi. Et donc, avec mon manager de l'époque, il me dit, tu sais quoi, viens, il avait pas de voiture à ce moment-là précis, je sais plus pourquoi, et il me dit, tu sais quoi, on loue une voiture et on y va. Et c'était un peu bizarre, parce qu'en soi, on n'avait pas grand-chose à gagner, j'avais déjà fait des premières parties là-bas, etc. Et donc, d'avoir pris cette occasion-là, ça a déclenché quelque chose. Je sais
d'accord.
Pas.
En fait, ce qui est fou, c'est que souvent, quand on réussit, on dit qu'on a de la chance, et finalement, c'est pas la chance, vu que tu l'as quand même provoqué. Il y a beaucoup de gens et d'artistes qui se disent moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas l'essence. Et donc, finalement, ils ne le font pas, ils passent peut-être à côté de l'occasion de leur vie, alors que toi, tu l'as finalement. Tu l'as provoqué, et je pense, on dit dans le jargon business, qu'on active une loi qui est la loi de la réciprocité. C'est quand on va chez quelqu'un, tu n'en avais pas besoin, mais tu y as été juste par plaisir et pour apporter de la valeur, souvent, il y a des surprises et des choses qui reviennent en retour en puissance 1000.
C'est vrai. Donc, et au Rwanda, on dit qu'on ne sait jamais ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. C'est parce qu'il y en a beaucoup dans mon pays, des collines. Mais voilà, c'est pour ça que des fois, je me dis toujours, on ne sait jamais, quoi. Et donc, surtout là, moi qui étais très jeune, j'avais 22, je pense, 22, 23 ans, tu me dis, va à Paris faire un concert. Évidemment que j'y vais. Donc, c'est vrai que j'ai saisi une opportunité. Mais après, ça, pour moi, à l'époque, ça ne me paraissait pas être un sacrifice. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de ma carrière, après, la vie a fait que j'ai dû plus tard reprendre des risques et des fois plus difficiles à prendre que juste partir à Paris. Et c'est vrai que j'ai toujours gardé ça à l'esprit, que la chance, ça se saisit. Voilà.
C'est
si ça
ça.
se crée pas, au moins ça se saisit.
Et tu as aussi parlé de, bah, que tu avais un manager. Là, pareil, un artiste qui souhaite démarrer et souhaite bien s'accompagner. Comment tu as trouvé ton manager? C'était quelqu'un que tu connaissais, un ami? Ou comment ça s'est passé, cette rencontre avec ton manager?
Ben, en fait, c'est tout simplement parce que quand je l'ai rencontré, c'était d'abord un ami, c'était par hasard dans des soirées avec d'un cercle d'amis communs. Et tout simplement, ben, il était dans la musique aussi. Et finalement, quand on a fini par signer en maison de disque, il n'était pas vraiment encore manager officiellement. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris ce rôle un peu par dépit au début, parce qu'il n'y avait personne pour faire ce métier-là. Et ça aussi, ça m'a appris une leçon. En tout cas, c'est que des fois, même si on n'est pas tout à fait sûr de comment faire les choses, bah, des fois, il faut juste se jeter dedans et le faire et découvrir en cours de route, quoi. Et c'est souvent sur le tard qu'on apprend. Et c'est ce qu'il avait fait lui à l'époque. Alors, il avait une fibre pour le business, mais il n'avait jamais eu ce rôle de manager non plus. Donc, je pense que pareil, pour lui, c'était aussi un pari de se dire, vas-y, j'y vais, et puis qu'on fake it until you make it, toi, comme on dit.
Oui, c'est ça, c'est en fait, on dit souvent qu'on devient parfait en faisant des actions imparfaites, et la plupart des managers ont finalement commencé comme ça à la débrouille, en faisant des choses qu'à la fin on s'améliore et on s'améliore. Tu nous as dit que tu as signé en maison de disque, et tu nous as expliqué comment. Après, quand on signe en maison de disque, ça y est, c'est parti. Et je pense que tu as signé un tube qui est passé partout. Est-ce que tu peux nous expliquer la création de ce tube et combien tu as eu, tu sais, combien tu as eu de ventes derrière de tout ça? Combien de personnes ont acheté ta musique, ce tube-là?
Alors, allez, le seul moyen que j'ai de jauger à peu près les ventes, je pense que c'est que j'ai fait un disque d'or en Belgique à
C'est combien du
l'époque. Le
coup un...
disque d'or sur mon premier album, c'était 10 000 ventes
10 000 ventes.
physiques. Et donc, c'était clairement un beau succès. Et je pense que je m'y attendais clairement pas, sachant, comme je te dis, que c'est arrivé très vite et que ce premier album, c'était avant tout mes premières chansons. Et donc, je pense que n'importe qui aurait été surpris de comment les choses se sont passées à l'époque. Et puis, on en revient peut-être à ce que je disais, d'être au bon endroit au bon moment. Je pense que la musique que je faisais, c'est-à-dire de l'acoustique, voilà, avec ma tête, jeune noir, tout ça. Il y avait plein de facteurs, je pense, qui ont joué, tu vois. Et du coup, oui, je me suis retrouvé, voilà, avec ce tube Espagnola, que, comme tu dis, tout le monde a entendu beaucoup. D'ailleurs, à l'époque, mes amis, ils en avaient marre. Ils disaient, on n'en peut plus, ta chanson. Et voilà, et c'est vrai que j'ai chanté mon bateau à travers toute la Belgique pendant, voilà, quand même pas mal d'années. J'ai tourné avec le premier album pendant 4 ans, quand même. Et ensuite, est arrivé The Voice. On était en 2014-2015. On m'a proposé de faire coach dans The Voice. Et puis, ça a été une aventure assez particulière parce que c'est.
Là, donc, The Voice est venu te chercher.
Ouais,
Ils sont venus.
ils sont venus me chercher. J'étais entre deux albums. En tout cas, le deuxième était quasi terminé. Et ils sont venus me chercher. Ouais, je pense que je correspondais au profil qu'ils cherchaient à ce moment-là. Et bon, j'ai pas hésité trop longtemps, hein, la vérité. Voilà, on dit, tu vas passer à heure de grande, au prime time, comme on dit, à la télévision et tout. Pour moi, c'était en termes de promotion, etc. C'était un truc que je pouvais pas refuser. Et donc, je l'ai fait, même si artistiquement, c'est plus artistiquement que j'avais des réticences. Et que voilà, je me disais quand même, tu sais, tu te fais toujours un peu l'avocat du diable. Tu te dis, ouais, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, j'ai fait qu'un seul album, j'ai
Ah,
22.
t'avais ce syndrome de l'imposteur un
Bah
petit
oui,
peu, voire moi,
clairement, oui,
carrément, ouais.
clairement. Tu te dis, je me retrouve coach à devoir juger des gens. Si ça se trouve, ils chantent depuis avant que je suis né. Tu vois, qu'est-ce que je vais apprendre à ces gens? Et donc, clairement, au début, il y avait un peu ce truc du syndrome de l'imposteur. Mais c'est vraiment quand l'émission a commencé, et que plus que l'émission, mais que le processus de coaching, donc après les blinds, etc., quand on a vraiment commencé à échanger avec les talents, etc., c'est là que je me suis vraiment rendu compte, en fait, que j'étais les plus légitimes que ce que je croyais, parce que moi-même, sans le savoir, j'avais quand même, au bout de seulement un album, mais une longue tournée, j'avais acquis énormément d'expérience quand même, et j'avais appris beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte en cours de route qu'en fait, j'avais pas mal de choses à transmettre aux plus jeunes et aux moins jeunes aussi, en fait.
C'est bien ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont bloqués par ce syndrome de l'imposteur, et quand on réfléchit comme tu viens de réfléchir, on se dit, mais finalement, c'est vrai, t'avais déjà sorti un album, t'avais déjà vécu tout le processus, t'étais même limite un mentor pour eux. Mmh. Et le fait de le vivre, bah, t'es déjà un niveau au-dessus que 99% des gens qui n'ont pas vécu. Donc à ce moment-là, on est légitime.
Bah, en tout cas, je ne sais pas si c'est niveau au-dessus, mais en tout cas, c'est que j'ai une expérience qui est personnelle, qui est particulière, qui m'a fait acquérir une certaine expérience, quoi, que, tout simplement. Et donc, cette expérience personnelle, elle a une valeur que je pense qui peut être une valeur ajoutée à n'importe quel autre artiste.
Et du coup, dans cette expérience, tu as été coach et tu as une grande expérience. Quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un? Alors, ça peut être quelqu'un qui veut se lancer à la musique ou un entrepreneur, parce qu'il y a des ponts aussi entre ces deux mondes-là. Quel serait le meilleur conseil basé sur ton expérience que tu pourrais transmettre ici aux auditeurs?
Moi, je dirais que ce que j'ai appris ces dernières années, peut-être si je dois parler aujourd'hui en 2023, qu'est-ce que je peux transmettre aux gens, c'est plutôt ce que j'ai retenu comme leçon entre le deuxième et le troisième album. C'est-à-dire que des fois, on cherche très loin ce qui est juste sous nos yeux. Et c'est vrai qu'on va parfois, et souvent quand on est entrepreneur, on se travaille beaucoup seul, c'est très solitaire, souvent comme vie. On est souvent à devoir peser le pour et le contre de chaque décision, seul dans sa tête. Ma femme, elle dit que je fais des réunions dans ma tête. Elle dit, je ne sais pas combien vous êtes, mais voilà, je fais des réunions où il y a le directeur marketing qui dit au directeur artistique, il n'y a plus d'argent, il ne faut pas faire de clip. Et puis il y a l'artiste en moi qui dit, ouais, mais on peut quand même faire un clip avec un iPhone. Et puis, enfin, tu vois, et ça débat comme ça pendant des heures. Et donc, en fait, si je devais donner un conseil, c'est plutôt que, au lieu de débattre pendant des heures, des fois, il faut juste ouvrir les yeux sur qu'est-ce qu'on a entre les mains, qu'est-ce qu'on amène de plus sur la table que les autres, qu'est-ce qu'est l'essentiel de ce qu'on est, quoi. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous quelque chose de différent. Et à partir du moment où tu trouves c'est quoi ta différence, t'as trouvé c'est quoi ta valeur ajoutée et ce que tu peux amener aux autres.
C'est ça, c'est un peu la simplicité, la singularité, en fait.
C'est ça, la singularité, c'est le mot. Ouais. Je pense qu'on est tous singuliers et que c'est justement là. Alors, c'est une recherche difficile et ça ne revient pas du jour au lendemain de trouver ce pourquoi on est différent. C'est vraiment compliqué. Et moi, voilà, moi, ça m'a pris 7 ans. T'as vu, ça fait depuis 7 ans que je n'ai pas sorti d'album. Mais j'ai fini me voir en face, quoi, et me dire, en fait, mais toi, c'est ça que tu sais faire, en fait. Ben, vas-y, fais-le, alors.
Voilà, mais c'est bien que tu parles des 7 ans, parce que tu as vécu une traversée du désert, et on va en parler juste après la deuxième pause musicale, et ça, je pense, ça va vraiment intéresser les auditeurs de savoir, mais comment ça s'est passé, surtout avec la période du Covid où l'artistique a été vraiment touché. Le Covid, je l'ai beaucoup vu, par exemple, avec Matt Pokora, qui a dû limite annuler toutes ses tournées, et je pense que tu as aussi été impacté. Comment t'as vécu cette période qui a été délicate pour tous les artistes?
Ben, moi, je dis souvent, je peux pas mettre tout sur le dos du Covid, parce que quand le Covid est arrivé, je me posais déjà beaucoup de questions et j'avais pas beaucoup de réponses. Donc, alors c'est sûr, ça n'a pas arrangé les choses. Mais c'est vrai que, comme je te dis, mon deuxième album, il était sorti en 2015. Et après ce deuxième album, j'ai tourné quand même pas mal avec. Et puis, au bout d'un moment, ma maison de disques à l'époque m'a rendu mon contrat parce que, voilà, bon, pour des raisons.
Ça, c'était en 2015 ?
C'était en 2016, comme ça, 2016-17. Et ils m'ont rendu mon contrat. Et donc, après, bon, forcément, je ne me suis pas précipité tout de suite en studio.
Là, quand on finit un contrat, mentalement, émotionnellement, tu étais comment ?
Franchement, j'étais très jeune, très insouciant et très confiant de l'avenir.
C'est ouais, ça.
Tout simple. Donc j'étais pas. Enfin, même si oui, c'est toujours un petit revers, parce que je passe de quelqu'un à qui tout est arrivé très vite sans vraiment devoir le chercher à tout d'un coup il y a une porte qui se ferme, et c'était un peu la première fois pour moi. C'était donc ça a été clairement une petite douche froide, mais j'étais pas plus affecté que ça, parce que tout simplement je pense que c'était peut-être plus de l'inconscience que de l'insouciance, parce que justement je pensais que je me disais, bon, si c'est pas eux, demain il y en aura d'autres, quoi, tu vois. Et après je suis un peu retombé sur terre assez vite, mais on va dire que au moment, en tout cas, où ça s'est terminé, j'étais assez serein.
C'est ça. Et du coup, comment ça s'est passé? Comment t'as pu une maison de disques? Comment t'as relancé la machine?
Bah, déjà quand on fait de la musique, Et moi, je ramène ça à la musique parce que c'est ce que je fais, mais je pense qu'on peut extrapoler à beaucoup d'autres domaines. C'est que déjà, j'ai dû me recentrer sur moi-même et essayer de comprendre, comme je disais tout à l'heure, OK, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qui tu es, quoi, en gros, tu vois. Et donc ça a été une question qui m'a trotté dans la tête longtemps, parce que c'est vrai que, comme je te disais, mon premier album, c'était mes premières chansons. Donc j'avais, sur le deuxième, j'avais voulu rompre un peu avec cette boîte dans laquelle j'avais l'impression qu'on m'avait mise, tu vois, auteur-compositeur à la guitare, folk, des gentilles chansons acoustiques, etc. Voilà, même si j'adore ça, au bout d'un moment, ça m'avait saoulé. Donc deuxième album, j'avais voulu rompre avec ça, et c'est pour ça que sur le deuxième album, il n'y a quasi pas de guitare, parce que c'était vraiment, comme je te dis, vraiment un sentiment de trop-plein, quoi. Et donc j'avais voulu casser ce truc-là avant qu'il soit trop tard, presque, tu vois ce que je veux dire. Et donc ensuite, plus tard, là, sur le troisième album, enfin, entre les deux plutôt, là, c'est là où je te dis, je me suis vu un peu face à moi-même, notamment pendant le Covid, où, comme tout le monde, j'étais livré face à l'essentiel et, tu vois, toutes les questions existentielles que des longues journées peuvent apporter, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, mais au final, t'as beau lutter, mais c'est ce que tu es. Tu vois, c'est-à-dire que moi, la guitare, c'est ce qui m'a amené à faire de la musique. C'est quand j'ai découvert des artistes comme, je sais pas, Loco Akanza ou bien des Francis Cabrel que j'ai écouté depuis mon enfance, etc. C'est ce genre d'artistes qui m'ont amené à faire de la musique. Et donc, ça m'a réconcilié, en fait, avec ce que j'étais. Je suis revenu, je me suis surpris à refaire, en fait, à retourner à la base, quoi, à retourner un peu à l'essentiel.
Et souvent, on dit la réussite, c'est faire ce que l'on est, et le plus important, c'est d'apprendre qui on est et se connaître. Donc là, tu as eu tout ce cheminement qui fait que maintenant, bah, tu sais vraiment où tu veux aller. Et donc, du coup, bah, tu vas sortir, ou tu as sorti ton nouvel album. Est-ce que tu peux nous en parler?
Tout ça nous a amené justement à ce nouvel album qui vient tout juste de sortir là. Il s'appelle Paysage. Paysage parce que justement, pour moi, ça, c'était un peu un album photo de tout ce que j'ai pu emmagasiner comme images et souvenirs au cours de ces dernières années. Parce que dans les chansons, voilà, je parle beaucoup plus de moi et beaucoup moins par métaphore et histoire comme je pouvais le faire avant sur mes premières chansons où je me cachais souvent derrière de la poésie. Et là, dans ce troisième album, j'ai été un peu plus droit au but en parlant un peu plus de moi dans certaines chansons. Et c'était un peu comme des photos, quoi, que j'ai prises à un certain moment donné. Il y a une chanson qui s'appelle Les années folles que j'ai écrite où voilà, comme je dis, c'est un peu comme une photo de moi et de ce que je pouvais être au moment où j'ai écrit cette chanson.
Et en accompagnement de l'album, tu comptes aussi du coup partir sur une tournée? C'est prévu aussi?
C'est prévu, je vais bientôt annoncer des nouvelles dates, mais clairement c'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est parce que la scène c'est mon premier amour, si je peux dire, et donc j'ai très hâte de retrouver le public, notamment avec les festivals cet été, et puis encore toute une longue tournée j'espère derrière pour aller chanter cet album qui me tient à cœur, parce que comme je te dis, il est né dans mon grenier, tu vois, entre le confinement et aujourd'hui, donc sur ces 2-3 dernières années là. Et donc c'est vraiment du 100% Djali, quoi. On peut pas faire plus personnel comme album.
Voilà, souvent les plus grandes réussites commencent tous dans un grenier, hein. Donc
écoute, j'espère que ça me portera bonheur.
Donc bah, en tout cas, en plus de ton talent, on sent la passion dans ce que tu nous racontes. Et si on doit se connecter avec toi, te retrouver, pouvoir écouter ta musique, comment les gens font, comment les auditeurs font?
Alors c'est très simple, je suis sur les réseaux sociaux comme tout le monde, c'est Djali officiel sur Instagram et Facebook, TikTok, Twitter, voilà, je suis assez facile à trouver, je suis plutôt actif et je réponds aux messages et tout ça, donc voilà. Faut pas hésiter.
Bon bah allez le suivre, écouter sa musique et je te souhaite plein de succès.
Merci Jérémy.
On voit que, bah, je répète une seconde fois, t'es passionné, souvent la passion ça amène loin et en plus du talent, donc merci. Ce fut un plaisir de te recevoir dans cette émission et bah, à très bientôt pour une nouvelle émission de Tout pour réussir.
Merci beaucoup.